Vous écoutez France Musique.
Verdi à Orange, Mozart à Aix, Handel à Beaune, Schubert à la Roque d'Anthéron, et vous, où irez-vous et qu'irez-vous entendre cet été ? Dans quelques semaines, la grande kermesse des festivals va s'ouvrir, le mois de juillet, symbolisant on ne peut mieux cette fièvre annuelle qui accueille à lui seul près d'un quart des 2000 manifestations organisées chaque année, tous styles musicaux confondus. Si les musiques amplifiées caracolent en tête par le nombre et représentent 50% de l'offre festivalière, la musique classique et contemporaine, avec 130 festivals environ, arrive en quatrième position, derrière le jazz et les musiques improvisées et les musiques du monde. S'il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses, côté destination, une fois de plus, c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui raflera la mise, suivie de la région Rhône-Alpes et de l'Île-de-France. À elle seule, ces trois régions accueille plus d'un tiers des festivals sur notre territoire. Reste bien sûr la question centrale, et qui nous occupera en partie aujourd'hui, du coût et du financement de ces festivals. À l'heure de la crise et de la baisse des subventions qui a contraint plusieurs manifestations à mettre la clé sous la porte l'an passé, quelles solutions trouver ? Quelle programmation bâtir ? Pour quel public ? À quel prix et à quelles conditions ? Éléments de réponse aujourd'hui, en compagnie de Marie-Hélène Duvigneault, avec deux directeur de festival lyrique emblématique, Raymond Dufaux pour l'éco-régie d'Orange et Bernard Faucroule pour le Festival international d'Aix-en-Provence, invité de ce nouveau numéro de 30 minutes d'entracte.
Et je t'ai une chose.
L'air de la fleur, Carmen, bien sûr. Roberto Alagna, l'orchestre du Capitole de Toulouse, dirigé par Michel Plasson. Roberto Alagna, qu'on entendra cet été au Corégie d'Orange le 19 juillet, sauf erreur, lors d'un concert avec Anna Caterina Antonacci. Aujourd'hui, dans 30 minutes d'entracte, eh bien, on parle du financement des festivals en compagnie de deux invités. Raymond Dufaux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des Corégies d'Orange depuis 1982, je crois.
Tout à fait.
Vous êtes également conseiller artistique de l'Opéra d'Avignon jusqu'à l'année prochaine.
Jusqu'en 2016,
très bien.
Il y a une petite prolongation.
Oui, d'accord. Alors vous allez nous parler de ce financement des Corégies d'Orange, du financement des festivals peut-être en général. Avec vous aujourd'hui, Bernard Faucroul également, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en duplex d'Aix-en-Provence, vous êtes directeur du Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence depuis 2007. Vous avez succédé à Stéphane Lissner et vous venez tout juste d'être prolongé, si je puis dire, jusqu'en 2017. C'est bien ça?
Exactement.
Le Festival d'Aix-en-Provence s'ouvre le 4 juillet prochain et se termine le 27 avec plusieurs opéras, dont Verdi, qu'on n'entend pas souvent, en tout cas plus rarement au Festival d'Aix, Rigoletto, Electra, Don Giovanni, on en reparle. Et comme tous les samedis, presque tous les samedis, puisqu'elle revient de vacances, Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour.
Les festivals, ce sont de gros investissements, certes, mais qui rapportent.
C'est difficile de chiffrer précisément les retombées des festivals. Il y a quelques années, un événement a permis d'analyser leur impact économique essentiel. C'était en 2003, les mouvements de grève des intermittents du spectacle ont conduit à de très nombreuses annulations au cours de l'été et le manque à gagner a été important puisque la venue des festivaliers profite à l'ensemble des structures de l'industrie locale. Les professionnels de l'hébergement, de l'hôtellerie, de la restauration, des commerces et même des transports. C'est une recette importante qui s'est envolée cette année-là, l'équivalent dans certains cas d'un 13e mois. De quoi militer en faveur de l'existence d'un festival, d'autant qu'il allonge souvent la saison touristique quand il ne la crée pas de toutes pièces, comme le festival Jazz in Marsiac dans le Gers. Il peut en outre amener le public à revenir dans la région en dehors du festival. Les Francopholies de La Rochelle ont ainsi constaté que 83% des festivaliers pensaient faire un nouveau séjour pour visiter l'île de Ré ou l'île d'Oléron. Au-delà des retombées touristiques, un festival c'est aussi du travail pour les entreprises locales impliquées dans la réalisation technique et matérielle de l'événement. L'imprimerie pour les affiches ou les brochures, les services techniques pour l'éclairage et la sonorisation ou encore les dépenses de communication pour les conférences de presse et autres relations publiques. Et qui dit travail pour les entreprises locales dit emploi. Même s'ils sont saisonniers, par les temps qui courent, c'est toujours un plus. Enfin, un festival, c'est une image et de la notoriété pour la ville et la région, sur le territoire national bien sûr, mais aussi à l'étranger. Une campagne de communication à une échelle qu'aucune communauté territoriale n'aurait les moyens de s'offrir. Au final, même s'il coûte cher, on peut donc dire que les festivals sont souvent plutôt une bonne affaire pour les villes et les régions qui les organisent.
Merci Marie-Hélène Duvigneau. Alors, une bonne affaire pour les villes qui les organisent. Je ne sais pas si les Corégies d'Orange sont une bonne affaire pour la ville d'Orange. En tout cas, elle a une façon de manifester son soutien aux Corégies d'Orange un peu particulière, puisque je cite Thierry Mariani, qui est le président des Corégies d'Orange. La subvention de la mairie d'Orange n'a pas augmenté depuis 1989, Raymond Dufaux.
Exactement, oui, d'une manière générale. De toute façon, les subventions dont nous bénéficions de la part de nos quatre partenaires institutionnels n'ont guère augmenté sur cette période. Et il est vrai que celle de la ville d'Orange a été particulièrement stable depuis l'origine. Il ne faut pas vous oublier même que par deux fois, elle a été purement et simplement supprimée de par un certain nombre d'événements sur lesquels il est inutile, je pense, de revenir ici. Je dois à la vérité de dire qu'au-delà du problème même de la subvention, les relations, je dirais, sont quelque peu apaisés aujourd'hui entre la ville et les Corégies, ce qui est quand même un mieux qui était indispensable parce qu'on est quand même liés les uns aux autres de manière évidente, dans la mesure où le théâtre antique est propriété de la ville et qu'il y met à notre disposition. Donc il était difficile de vivre, de continuer à vivre dans un climat tendu et qui s'est donc détendu, ce qui n'a rien changé toutefois au niveau financier que vous évoquez. Il est évident qu'une subvention qui n'a pas bougé depuis 20 ans devient extrêmement problématique dans les équilibres budgétaires auxquels nous devons faire face.
Ouais. Pour parler de ce financement des festivals, de ce coût d'un festival, on a aujourd'hui avec vous, Raymond Dufaux et Bernard Faucroul à Aix, deux profils bien différents, puisque les Corégies d'Orange s'autofinancent à plus de 80%, à 83,3% pour être précis. Bernard Faucroul, est-ce que vous pourriez, en quelques minutes, dresser un petit panorama, nous expliquer, nous donner le budget du Festival d'Aix-en-Provence et ce qu'il distingue, par exemple, de cet autre festival d'opéra que sont les Corégies d'Orange?
Oui, volontiers. Peut-être un premier chiffre qui permet de préciser en ce qui concerne Aix, cette question des retombées, puisque nous venons de faire une étude par l'agence Nova à l'automne. Enfin, c'est une étude qui a duré un assez long moment et qui donne le résultat suivant qui est très clair et très positif. C'est que pour 1 euro investi par les pouvoirs publics, il y a 10 euros de retombées économiques. Et donc, en chiffre absolu, ça se traduit par 6,5 millions d'euros de subventions de l'État, de la ville, de la communauté d'agglomération, du Conseil général et du Conseil régional, et au total, plus de 65 millions de retombées économiques, pour bonne part sur la ville et la région, mais pas seulement. Donc on voit bien qu'on est dans une économie qui est très enrichissante, si vous voulez, sur le plan matériel, pour ne rien dire de l'aspect immatériel, de tout l'aspect artistique, de l'image, du travail éducatif, social, etc.
Sur les 6,5 millions, Bernard Faucroule, vous avez cité l'État, la ville, la communauté urbaine. C'est l'État le plus généreux ou c'est la ville ?
Alors, c'est l'État qui apporte à peu près la moitié de son financement public. Et puis, l'ensemble des collectivités territoriales, ville en tête, se partagent l'autre moitié.
Donc, je rappelle que j'ai les chiffres sous les yeux. Au Festival d'Aix en 2012, il y a eu 48 représentations d'opéra, 20 concerts, 61 manifestations à l'Académie européenne de musique. Vous enviez ça, j'imagine, Raymond Dufaux, ce confort?
Oui, je crois qu'on a deux situations totalement différentes, très éloignées l'une de l'autre. Parce que je pense que les corrigistes sont dans une situation extrêmement paradoxale, d'ailleurs, par rapport à la chose financière. Pour rebondir également sur les retombées économiques, on avait fait une étude il y a quelques années, on envisage d'ailleurs d'en faire une autre dès l'année prochaine, qui avait conclu à ce qu'il y avait à peu près 4 500 000 euros de retombées directes, indirectes et induites sur les économies, par rapport donc à un montant de subvention pour ce qui nous concerne, qui est de 890 000 euros. Tout partenaire confondu, l'État venant légèrement en tête, région et département étant à peu près ensemble.
Avec un budget de 5 millions.
Avec un budget de 5 millions, oui. Ouais. Ce qui veut dire que sur un budget de 5 millions, donc on a à peu près, selon les années, 4 millions, un peu plus de 4 millions de recettes propres, recettes billetterie et recettes diverses, dont les partenariats et le mécénat.
Est-ce que ça veut dire quand on s'autofinance à 83,3%, qu'on a une marge artistique très faible?
Extrêmement réduite. Ouais. On a une marge artistique extrêmement réduite pour plusieurs raisons d'ailleurs à Orange, de par ces enveloppes budgétaires qui viennent d'être évoquées, de par aussi le fait qu'il ne faut jamais oublier qu'on a un lieu qui nous permet d'accueillir, et c'est formidable d'ailleurs, 8300 personnes sur une seule représentation, mais si l'on en fait deux, ce qui est le cas aujourd'hui la plupart du temps, ce sont 17 000 spectateurs qu'on doit accueillir sur une seule production d'opéra, ce qui veut dire quand même qu'on est condamné d'une certaine manière à afficher le plus généralement possible, les œuvres qui s'adressent au plus large public, d'où peut-être évidemment la répétition de certains titres à Orange, mais qui sont un peu la règle du jeu et le cahier des charges de notre festival.
Vous avez tiré, Raymond Dufaux, récemment la sonnette d'alarme sur justement le mode de fonctionnement et de financement des corrigies d'Orange. Quel est le danger ?
Le danger, c'est que si on a une baisse, pour une raison ou pour une autre, de la billetterie par rapport à ce qui peut être budgété, on est très très vite dans le rouge. Pour exemple, l'année dernière, on a fait 3 400 000 euros de recettes billetterie, ce qui est, je pense, un très bon chiffre. Comme le rappelait Jérémy Rousseau, plus de 83% d'autofinancement, et malgré ça, on était en petit déficit. Donc ce qui veut
165
dire...
165 000 euros de déficit.
Évidemment, la situation extrêmement fragile de la manifestation, et j'avais fait un petit calcul dans le cadre de la note structurelle financière que j'ai remise il y a quelque temps à nos quatre partenaires institutionnels, que pour obtenir par exemple un taux d'autofinancement de 70%, qui est déjà un taux de financement relativement très important dans le domaine de l'opéra, il faudrait tout simplement que les subventions dont nous bénéficions de la part de nos partenaires institutionnels soient multipliées par deux. Ce qui, dans l'époque actuelle et dans la configuration économique et financière actuelle, je pense, ne peut pas être forcément très immédiatement envisagé.
Bernard Faucroule, la jauge de tous les théâtres rassemblés, puisque vous avez le théâtre de l'Archevêché, le théâtre plus récent du Grand Théâtre de Provence et le Grand Saint-Jean, c'est ça, à Aix, et le théâtre du Jeu de Paume, que j'ai oublié. On arrive à combien à peu près de places en tout au Festival d'Aix?
Écoutez, on est sur des jauges qui vont de 500 pour les petites salles à 1250 pour les grandes. Donc si on les additionne, mais c'est peut-être un calcul un petit peu artificiel, on doit être à peu près à 4000 places. Alors, si vous voulez, c'est vrai que, comme Raymond Dufaux vient de le dire, c'est un paramètre qui modifie considérablement l'économie et du coup aussi, d'ailleurs, la programmation artistique, parce que nous avons la possibilité, dans des lieux comme le Grand Saint-Jean, cet été, de donner une création mondiale d'un compositeur pas encore très connu, Vasco Mendonça, un ancien élève de George Benjamin. Nous pouvons donner un opéra baroque au Jeu de Paume dans une salle de 500 places, un peu comparable au théâtre vénitien de l'époque de Monteverdi et Cavalli. Et puis nous avons l'Archevêché ou le Grand Théâtre qui peuvent accueillir 1250 personnes pour des ouvrages classiques, des Mozart, Verdi, Strauss, etc.
Est-ce que ces créations, cet opéra rare de Cavalli et cette création que vous mentionnez, il y a peut-être une légère prise de risque. Est-ce que Rigoletto et Don Giovanni sont là pour compenser et assurer le remplissage absolu des garanties des salles ?
C'est ce que l'on pourrait croire, et ce qui se passe cette année est exactement l'inverse. C'est-à-dire que ce sont les projets, c'est la création de Mendonça et Elena de Cavalli qui se sont vendus en premier. Et je pense que la raison est d'une part que la capacité des salles est un peu plus réduite et que d'autre part, nous pratiquons des tarifs un peu moins élevés. Mmh. Et donc, je pense qu'il y a là un effet de la crise. En gros, aujourd'hui, toutes les représentations de la première partie du festival sont pratiquement à bureau fermé, mais nous avons encore un certain nombre de places à vendre sur la deuxième partie du festival, davantage que les années précédentes, surtout que 2011 ou 2010. Et ça, je pense que c'est quand même un effet de la crise, c'est-à-dire qu'on voit que le public est plus réticent à payer des places chères. Alors, nous n'avons bien sûr pas que des places chères, puisque nous partons à 15 euros pour les étudiants, etc. Donc, il y a toute une série. Mais tout ce qui est relativement accessible part en premier lieu et reste à ce moment-là les places les plus chères. Heureusement, dans une proportion qui nous permet de penser qu'on arrivera à notre objectif de recette.
On va reparler de la crise et de ce prix des places et on va faire une pause musicale avec cet opéra qui était un succès considérable, public et critique l'an passé, Written on Skin de George Benjamin. C'est un extrait de l'acte 2 et c'est le compositeur lui-même qui dirige le Malheur Chamber Orchestra. Un extrait de Written on Skin de George Benjamin avec le Malheur Chamber Orchestra et le compositeur à la tête de l'orchestre. C'est un spectacle qui a tourné et qui continue d'ailleurs à tourner puisqu'on le verra notamment à l'Opéra Comique à Paris la saison prochaine, en décembre. Je crois qu'on l'entendra à Vienne, c'est ça Bernard Faucroul avant ?
Alors, à Vienne, c'est dans quelques jours, et puis à Munich au début du mois de juillet. Et effectivement, sur un peu plus d'un an et demi, cet opéra aura été vu par plus de 50 000 spectateurs en salle. Mm-hmm. Il est déjà invité à New York, il va connaître de nouvelles productions. Donc, je crois que c'est extrêmement réjouissant de voir qu'un opéra contemporain, sans concession, mais avec un art vocal et orchestral superbe.
Et un sujet fort
peut attirer, ouais. et un sujet magnifique peut ouais. attirer aujourd'hui un large public.
Ouais. Ouais. La création mondiale, alors ça, Raymond Dufaux, corrigé d'Orange, c'est inenvisageable.
Un ancien directeur de la musique qui était Maurice Fleuret à l'époque m'avait dit que ce serait quand même bien que les corrigés d'Orange puissent envisager des créations mondiales. Ouais. Je lui avais répondu que sur deux productions que nous faisions chaque année, si nous devions envisager une telle création, même si le déficit d'une telle création devait être directement pris en charge par le ministère, ce qui n'était pas de toute façon d'actualité, je pense que c'était une très mauvaise décision par rapport à notre festival, parce qu'on aurait été obligé de reconquérir le public qu'on aurait perdu ouais. une année.
Je vous pose cette question parce que même un opéra de Wagner, eh bien ça ne remplit pas les corrigés d'Orange.
C'est-à-dire ça remplit les corrigés ouais. à peu près sur une représentation, ce qui a été régulièrement le cas quand nous avons programmé des Wagner, que nous n'avons plus programmé depuis que nous proposons aujourd'hui deux représentations par production d'opéra. Et il est évident, lorsqu'on ajoute une représentation dans une salle de 1000, 1500 places, c'est plus facile qu'à Orange où d'une salle, d'une représentation sur deux, on double la capacité ouais. d'accueil, donc on doit immédiatement
donc,
doubler
deux,
le public.
Donc cette année, il y avait deux vaisseaux fantômes qui est prévu, il n'y en a plus qu'un, le 12 juillet.
Exactement.
En revanche, il y a toujours deux Verdi.
Deux Verdi avec deux balles masquées ouais. qui sera donné d'ailleurs pour, ouais. pour la première fois ouais. au Corégie.
Rigoletto au Festival d'Aix-en-Provence, c'est pas de la concurrence ça pour vous?
Non, je pense que de toute façon, c'est qu'on se communique régulièrement avec ouais. Bernard Faucoul nos programmations. Alors c'est vrai que parfois, il y a des chevauchements d'ouvrages, puisqu'on avait donné Rigoletto, nous, dans le cadre de l'année Verdi, avec un énorme succès en 2011. Ouais. Aix le donne cette année, mais je pense qu'on se retrouve très peu fréquemment quand même sur des titres analogues, de par tout simplement les lieux qui accueillent nos différentes productions.
Marie-Hélène.
Vous avez parlé donc de l'annulation d'un Wagner, mais au-delà de ça, la crise a-t-elle pesé sur la billetterie?
Rebondis d'ailleurs sur les propos que vient de tenir Bernard Faucoul, parce qu'on constate à peu près les mêmes choses. Je crois que c'est tout à fait normal d'ailleurs. Et nous, à la limite, ce qu'on constate, ce sont plutôt les places médianes, je dirais, au niveau des tarifs, qui ont du mal à se commercialiser, moins les places les plus chères, à condition évidemment qu'on ne multiplie pas à l'excès le nombre de représentations, parce qu'on aurait souvent cette population qui n'existe plus. Les places à tarifs les plus populaires qui s'arrachent comme elles ne se sont jamais arrachées, notamment dès l'année dernière en 2012, et on sent que ce sont les places à prix moyen qui touchent finalement les classes moyennes qui sont les plus hypothéquées dans la billetterie.
Oui. La fourchette des places, en fait, c'est assez proche finalement sur les grands titres entre Aix-en-Provence et les corrigés.
Je pense qu'on est plus ouvert qu'à Aix.
Oui, ça va disons pour les opéras de 50 à 240 euros.
Exactement, oui.
Et pour Aix-en-Provence, hein, Bernard Faucoul, vous me confirmez ou si j'ai des bêtises, pour Rigoletto, Electra et Don Giovanni, c'est 30 à 240 euros.
Exactement. Oui.
Et 15 pour les étudiants. Et vous avez, il y a des répercussions de la crise, vous la sentez dans une baisse de la billetterie également?
Oui, je vous le disais, je crois que déjà l'année dernière, on avait senti que les places les plus chères se vendaient un peu plus difficilement, surtout sur la seconde partie du festival ou sur les titres moins connus. Cette année, c'est vrai que Rigoletto, par exemple, qui est une nouvelle production, n'a pas fait encore le plein, alors que je m'attendais, au vu de la Traviata d'il y a 2 ans, à ce que ça soit peut-être la production la plus rapidement vendue. Ouais. Mais je vous disais, on voit qu'il y a une évolution, donc nous en tenons compte dans nos projections pour les années à venir. Nous ne sommes pas trop inquiets pour cette année, parce que nous savons aussi qu'une partie du public décide davantage au dernier moment de venir et d'acheter les places. Et donc nous espérons qu'une fois le beau temps revenu, et bien que les dernières places seront écoulées.
Ouais. Alors, une question que je peux poser à chacun d'entre vous. Le taux de remplissage est quand même extraordinaire pour vos deux festivals. Malgré tout, Raymond Dufaux, vous accusez un léger déficit l'an dernier. Quels sont les coûts qui pèsent sur le financement d'un festival? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez, vous par exemple...
Raymond Dufaux d'abord et Bernard Faucoul ouais. après.
Un léger déficit n'est venu que du résultat de la billetterie, de toute façon, alors qu'on a fait quand même une très grosse billetterie, parce que nos frais fixes sont extrêmement réduits, puisque je le rappelle, nous sommes une toute petite équipe permanente pour gérer
combien
un tel festival. 6 personnes,
oui.
Moi, directeur compris.
Oui. Et combien de personnes à Aix, au passage, travaillent dans l'équipe du festival?
45.
Et c'est vrai que c'est un challenge chaque année de passer de ces 6 personnes permanentes à quelques 1000 personnes qui, sur l'ensemble du festival, travaillent au sein des corrigies sur les 6 semaines.
C'est elles qui coûtent cher, qui font exploser les coûts?
C'est l'ensemble des choses, parce qu'on parle parfois du cachet des artistes. Je pense que c'est loin d'être le cas. Nous avons évidemment aussi des masses artistiques qui sont forcément importantes, puisque nous avons un lieu qui a 65 mètres d'ouverture. Quand nous avons un orchestre dans la fosse, c'est entre 100 et 120 musiciens selon les ouvrages. Quand nous avons un cadre de chœur sur scène, c'est entre 80 et 120 ou 140 artistes des chœurs qui répètent pendant 15 jours. Et Dieu sait que le temps de répétition est extrêmement limité à Orange, ce que je peux toujours regretter d'ailleurs par rapport à la préparation des spectacles. Voilà, et puis il y a des frais fixes, les frais de production qui sont évidemment très bas et qui n'évoluent pas au fil des années, qu'on contient avec la plus grande rigueur. C'est un ensemble de paramètres, mais le budget global du festival reste assez stable depuis plusieurs années.
Bernard Faucroul, est-ce que le coût d'une production d'opéra au Festival d'Aix-en-Provence est supérieur au coût d'une production d'opéra dans un théâtre de répertoire ?
Non, je pense qu'on est sur des coûts à peu près similaires. Cela dit, cela varie pas mal d'une production à l'autre, des lieux. Et puis, surtout, nous avons mis en œuvre une politique très, très, très dynamique de coproduction, oui, qui fait que des productions qui, sur le papier, sont relativement coûteuses, s'amortissent,
exemple,
si vous voulez.
Exemple.
Alors, cet été, ce sera, par exemple, l'Electra de Strauss, mise en scène par Patrice Chéreau, que nous coproduisons avec La Scala, le Met, Helsinki, Barcelone et Berlin. L'année dernière, oui, c'était le Benjamin que vous avez fait écouter il y a un instant. Cet été, c'est également Rigoletto qu'on coproduit avec La Monnaie, Strasbourg et le Bolshoï. Et de cette manière-là, je crois qu'aujourd'hui, ce ne sont plus tellement du côté des coûts de production que nous pouvons espérer réaliser des économies. Mmh. Nous avons plutôt même une inquiétude qui est de voir que de plus en plus de nos partenaires habituels ont du mal à apporter des financements comparables à ce qu'ils faisaient il y a 5 ou 10 ans. Et donc, nous voyons aujourd'hui, c'est peut-être ça notre inquiétude, c'est de voir, alors que nous sommes dans une position aujourd'hui très saine et en ayant une gestion en équilibre depuis plusieurs années, nous voyons tout de même les nuages s'accumuler par l'addition de risques qui peuvent toucher à certaines formes de subventions publiques, à certaines éventuellement à la billetterie si l'on n'est plus prudent sur les questions de recettes, mais aussi aux partenariats internationaux qui aujourd'hui sont dans une phase plutôt descendante, et donc nous devons multiplier les partenariats, mm-hmm, pour obtenir des seuils de coproduction comparables.
Oui. Et est-il possible de faire des économies pour l'un comme pour l'autre sans mettre en cause la qualité du festival?
Je pense que c'est extrêmement difficile. C'est le discours que je tenais récemment auprès du ministère de la Culture, parce qu'il n'y a plus qu'une solution par rapport à ce que dit également Bernard Faucroul, par rapport aux subventions, par rapport à la billetterie. Si on veut trouver d'autres économies, elles ne peuvent être trouvées que sur le plan artistique. Et il est hors de question pour moi, et je pense que c'est la même chose pour lui, de mettre en cause de quelque manière que ce soit le niveau artistique, oui, des spectacles qu'on peut proposer. C'est évident, au risque de casser, oui, la fréquentation, et c'est la spirale infernale à ce, oui, moment-là.
N'est-ce pas Bernard Faucroul, vous?
Je ne peux qu'adhérer à ce que vient de dire Raymond Dufaux. La qualité, je pense, est la qualité artistique, la recherche de l'excellence, c'est une valeur absolue. Et il vaut mieux, le cas échéant, réduire sur la quantité pour maintenir l'essentiel. Je pense que si nous touchions à la qualité, à la créativité, nous mettrions en danger l'âme du festival.
On a parlé de la crise qui affectait en quelque sorte un peu la billetterie. Est-ce que la crise a touché l'engagement des entreprises, c'est-à-dire le mécénat, Bernard Faucroul?
Alors jusqu'à présent, on peut se féliciter du contraire, à savoir que la plupart des entreprises nous ont accompagnés, continuent à nous accompagner. On sent qu'il y a une pression, contestablement. Certaines d'entre elles ont dû se retirer parfois provisoirement. Mais que ce soit sur les très grandes entreprises, comme Vivendi par exemple, qui est notre premier principal partenaire, mais aussi à l'échelle locale, nous avons créé un club qui aujourd'hui rassemble 30 entreprises petites et moyennes, et qui apporte une contribution ensemble qui devient tout à fait importante. Aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, la contribution de l'ensemble de ces entreprises et du mécénat est du même montant que celle de l'État, c'est-à-dire qu'on est au-delà, d'accord, des 3 millions d'euros.
D'accord. Un dernier mot pour conclure, Raymond Dufaux, là-dessus.
Exactement les mêmes constatations. Je pense que pour le moment, les partenariats et les mécénats ne sont pas touchés, même si on sent, comme il vient d'être dit, un certain nombre de pressions. On en a deux ou trois nouveaux. Et nous, le niveau du partenariat est à peu près, évidemment, au prorata de nos montants de subvention, à égalité avec ce que peut donner l'État au niveau subvention.
Merci à vous, Raymond Dufaux, Bernard Faucroul. Je rappelle que le Festival d'Aix-en-Provence s'ouvre le 4 juillet avec il y aura Rigoletto, Electra, Don Giovanni, Elena de Cavalli et... j'en oublie certainement un, au Grand Saint-Jean, la création mondiale, et puis au Corégie d'Orange, le bal masqué, un bal masqué les 3 et 6 août, le vaisseau fantôme le 12 juillet, des concerts de Nucci, Cioffi, Alagna, Antonacci, à retrouver évidemment en grande partie sur France Musique. Merci à toute l'équipe aujourd'hui, Nelly Portal pour la préparation de l'émission, Marie Le Peintre à la technique, Éric Lancien à la réalisation. Bonne soirée, à samedi prochain.